Radio Libertaire, 89.4, le grand soir du mardi, émission du groupe Libertaire La Rue qui a lieu tous les troisièmes mardis du mois de 19h30 à 20h30, accueille aujourd'hui David Chavalarias, venu nous parler de son ouvrage intitulé « Toxic Data, comment les réseaux sociaux manipulent nos opinions ».
Chez Flammarion.
Chez Flammarion, mars 2022. David Chavalarias, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation de Radio Libertaire. Vous êtes mathématicien, directeur de recherche au CNRS et au Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'École d'études en sciences sociales. Vous êtes directeur de l'Institut des systèmes complexes et vous venez de publier donc un ouvrage, comme je l'ai dit, intitulé Toxic Data, comment les réseaux sociaux manipulent nos opinions. Pour réaliser ce travail de recherche, vous êtes parti de l'hypothèse suivante. Les modèles économiques actuels de la Big Tech, fondés sur la marchandisation de l'influence sociale, est incompatible avec la pérennité de nos démocraties.
Voilà, vous affirmez dans le livre donc que les démocraties sont malades du numérique et des réseaux sociaux. Au début du bouquin, vous soulignez le rôle qu'ont eu les réseaux sociaux dans l'élection d'un certain nombre de leaders d'extrême droite, comme Trump, Bolsonaro, Salvini, Orban et compagnie.
Tout à fait.
Alors comment ça fonctionne tout ça? Comment comment le numérique peut-il aboutir à de tels résultats?
Alors, le détail du comment prend un livre entier pour bien comprendre, mais on peut tenter une entrée en matière. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que les échanges que l'on a sur les réseaux sociaux, les rapports sociaux que l'on a sur les réseaux sociaux sont très différents de ce que l'on a comme rapports sociaux hors ligne, et notamment de les rapports sociaux qu'on avait avant l'avènement des réseaux sociaux. Première différence, c'est qu'il n'y a plus de frontières, donc on peut interagir avec n'importe qui, n'importe où, que c'est instantané, que c'est collectif. Hein, on peut envoyer un message qui peut être vu par des milliers, voire des millions, ou même des dizaines de millions de personnes. Et aussi que ce sont des espaces où, quand on échange avec des personnes, pour la plupart, enfin, ça dépend des gens, hein, mais pour la plupart, on ne connaît pas en fait nos interlocuteurs. C'est-à-dire que, comme c'est des espaces ouverts, souvent, en Twitter, même Facebook, etc., des gens peuvent venir vous interpeller. Et donc ça change complètement la manière dont on se forme ses opinions, puisqu'on est interagi avec des gens qu'on ne connaît pas forcément dans la vraie vie. On interagit aussi avec des gens pour lesquels, dans des contextes d'interaction où il nous manque beaucoup d'indices sur comment interpréter ces interactions, c'est-à-dire par exemple l'historique de la personne, qui elle est vraiment, ses expressions de visage, de corporel, etc. Et donc ça va vraiment modifier la manière dont nous recevons l'information en ligne, aussi la manière dont nous cherchons des nouvelles personnes à interagir ou dont nous interprétons les messages, et ça va permettre de nouvelles formes de socialité, voire d'action collective, et aussi de nouvelles manières de manipuler ces collectifs. Donc on va le détailler certainement, j'imagine, pendant cette heure-là, mais il faut savoir que voilà, les interactions sociales en ligne changent beaucoup, et maintenant on a une espèce d'hybridation entre le en ligne et hors ligne. Il y a 20 ans, on se disait, bon, ce qui se passe sur Internet, ça reste sur Internet. À l'heure actuelle, c'est plus du tout le cas. Maintenant, il y a une interpénétration totale.
Sur Internet a une influence concrète.
Je le détaille beaucoup dans le livre, mais il y a des manifestations qui sont organisées depuis Internet dans la vraie vie. Il y a des campagnes de harcèlement dans la vraie vie qui sont organisées depuis Internet. Le Capitole a été, la crise du Capitole a été organisée en grande partie par des groupes en ligne. Voilà, il y a plus de frontières vraiment entre vie physique et vie réelle en termes de conséquences des actions qui sont prises dans un univers ou dans l'autre. Et vous avez mentionné donc évidemment Trump, Bolsonaro. Il faut voir que donc on a eu le Capitole aux États-Unis, on a eu récemment un autre Capitole au Brésil.
Où les réseaux sociaux ont eu une influence aussi.
Les réseaux sociaux ont eu énormément d'influence au Brésil, et plus largement les médias numériques, parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation en ligne, notamment via le réseau WhatsApp au Brésil, parce que les Brésiliens n'ayant pas nécessairement de forfait mobile, en fait ils ont un forfait data, Et ils appellent leurs amis via WhatsApp. Et donc, WhatsApp est le principal canal pour appeler par téléphone. Donc, tout le monde a WhatsApp. Et ce qu'a fait Bolsonaro pour s'emparer du pouvoir, c'est qu'il a créé plein de groupes WhatsApp qu'il contrôlait de manière, en tant qu'administrateur, avec ses seconds couteaux. Et ils ont diffusé énormément de fausses informations là-dedans. Et après, ils ont continué à utiliser ce genre de réseau pour mobiliser leurs militants, etc. Donc, y compris au Brésil, effectivement, les réseaux sociaux ont joué un rôle très important dans la montée de Bolsonaro et après dans les révoltes qui se sont suivies.
Alors, d'où l'importance pour vous, en tant que scientifique, d'analyser ce système, cet univers. Et vous avez créé en 2016, si je ne me trompe pas, le Politoscope.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Oui, donc moi je m'intéresse à l'observation des mouvements sociaux, des évolutions des idées et des groupes sociaux. Au cours donc de mes recherches, donc depuis plusieurs années, je me suis rendu compte que le numérique devenait de plus en plus prégnant dans la vie de tous les jours. Et notamment qu'il y avait de plus en plus de campagnes de désinformation, où par exemple, il y a eu des campagnes pour annuler le concert de Black M, par exemple, à Verdun, où on faisait ressortir certaines paroles. Et bon, il y a eu plusieurs comme ça campagnes, souvent menées par l'extrême droite, mais pas que. Et donc là, je me suis dit que, et en observant aussi évidemment le Brexit, Trump, je me suis dit qu'il fallait absolument avoir des observatoires qui permettent de redonner du contexte à ce qui se passait en ligne. Parce que souvent, en fait, une des forces du numérique et de la manipulation du numérique, c'est d'arriver à faire croire par la démultiplication des actions, y compris par le fait de créer des faux comptes, d'arriver à faire croire qu'il y a un sujet qui préoccupe l'ensemble d'une population ou un scandale, etc. Alors qu'en fait, ce n'est qu'un groupuscule qui essaye de mettre à l'agenda cette problématique-là. Et donc, pour arriver à comprendre ces tentatives de mise à l'agenda ou ces tentatives de dévier en fait l'attention collective vers un sujet ou un autre, il m'a semblé important de travailler sur des dispositifs qui permettent d'observer ce qui se passe en ligne. Donc effectivement, en 2016, il y avait eu donc Trump, il y avait eu le Brexit, et d'ailleurs le Brexit avant Trump. Et donc, j'ai lancé avec des collègues, notamment Mazia Panahi, à l'Institut des systèmes complexes, un observatoire du militantisme politique sur Twitter. Alors, il y a plein d'arènes numériques où on débat et où les discussions sont importantes pour la vie réelle. Twitter, pourquoi Twitter ? Parce que à l'époque, et c'est encore le cas maintenant, la plupart des campagnes politiques sont relayées sur Twitter. Donc c'est un canal où on peut capter des données sur la manière de faire du militantisme et de promouvoir ses idées des partis politiques. Et c'est aussi un média qui est ouvert, en tout cas à l'époque. Là, on voit qu'avec la prise d'Elon Musk, les choses commencent à changer. Mais donc à l'époque, c'était le seul réseau social qui reversait une partie de ses données à qui voulait les prendre. Le contrat avec les utilisateurs était clair. Les gens qui publient sur Twitter, leurs données étaient publiques et donc moissonnables par d'autres. Et donc, ça permettait de faire un observatoire du militantisme politique de manière globale. Et donc, on a créé un certain nombre d'outils d'observation, de dispositifs. Et l'objectif, c'était à la fois d'un point de vue recherche, de mieux comprendre comment se formaient les idées, les groupes de militantisme, etc. Et aussi de sensibiliser le grand public à ces nouveaux espaces, montrer qu'est-ce que l'on pouvait inférer à partir de ces nouveaux espaces. Donc, par exemple, on a montré, et d'autres collègues aussi l'ont fait d'autres manières, qu'à partir des données que vous lissez sur Twitter, on peut très facilement reconstituer votre opinion politique, pour autant que vous ayez un petit peu d'interaction avec des gens qui s'occupent de politique ou que vous-même vous mentionnez des choses politiques. Ça peut poser problème. Ça veut dire que n'importe qui peut faire des listes de gens de droite, de gauche, de gens qui soutiennent telle personne et les réutiliser dans un entretien d'embauche, dans n'importe quoi. Donc il faut avoir conscience de ça. Et puis aussi, évidemment, donc encore une fois, comme un des buts, c'était aussi de comprendre les tentatives de manipulation d'opinion, notamment lors d'élections, de pouvoir réagir rapidement au moment d'une élection pour dire attention. Là, il y a quelque chose qui nous est présenté comme, par exemple, je sais pas, un grand mouvement social. En fait, non, c'est pas du tout. C'est une mise à l'agenda de tel ou tel groupe qui essaye d'influencer le débat de telle élection sur telle question précise. Et on sait très bien que les quelques jours avant une élection, les débats qui deviennent majoritaires, ça peut être l'immigration, la sécurité sociale, etc., vont avoir des impacts importants sur les décisions des électeurs. Et donc, celui qui arrive à influencer les débats, les choses qui sont discutées à 2-3 jours avant une élection, ou même une semaine, vont réussir à influencer les résultats de l'élection.
Quand on lit votre bouquin, moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'on a l'impression que ces méthodes de manipulation sont utilisées essentiellement par l'extrême droite. En tout cas, les exemples que vous donnez sont toujours de l'extrême droite. Comment on peut expliquer que ces réseaux sociaux soient manipulés par l'extrême droite et pas par l'extrême gauche, par exemple?
Alors, il y a deux types d'influences. Hein. Les influences internes, c'est-à-dire des citoyens ou des groupes de citoyens d'un pays, les influences externes. Donc, il y a une première série d'influences que je décris dans le bouquin, qui est des influences externes, par exemple la Russie ou la Chine. Bon, ça, c'est une chose. Donc, maintenant, si on regarde les influences internes, donc en gros des groupes d'un pays donné qui s'organisent pour essayer de manipuler ces réseaux, effectivement, c'est pas qu'on a voulu faire un focus sur l'extrême droite, mais c'est que quand on analyse les différents types de campagnes d'influence, eh bien, ce qui ressort majoritairement, c'est les campagnes d'influence d'extrême droite et de droite, on va dire, on peut dire, dans le livre, je le rapproche de l'alt-right américaine, donc c'est un peu une mouvance un peu complotiste, souvent donc raciste, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout à gauche ou à l'écolo ou au centre. Hein. On sait que, notamment, certains partis ont aussi des armées numériques, mais c'est en termes d'intensité, c'est bien moins fort que ce qui se passe à l'extrême droite. Et il peut y avoir plusieurs raisons. Hein. Une raison, c'est que ce sont des groupes qui ont eu historiquement peu accès aux grands médias et donc qui, tout de suite, ont saisi l'opportunité de réseaux alternatifs pour avoir de la visibilité. Donc, ils sont très entraînés pour utiliser ce genre de réseaux. Il y a aussi que ce sont des réseaux qui ont des soutiens, souvent directs, pas forcément officiels, ni même acceptés, hein, mais deux régimes de type Kremlin ou Chine, peut-être Chine, je ne sais pas, mais en tout cas Kremlin, c'est clair, on sait qu'ils aident beaucoup l'extrême droite européenne, notamment des fins de division, on pourra en reparler, et on pourra aussi en reparler d'ailleurs, donc le Kremlin a des équipes et des agences spéciales d'influence numérique, et elle les met au service donc notamment de l'extrême droite. Quand je dis encore une fois, c'est pas forcément qu'il y a collusion au sens d'un contrat, même si parfois, on sait par exemple qu'en Italie, Salvini a pu négocier avec le Kremlin pour avoir des financements de campagne, etc. On sait aussi que, évidemment, Marine Le Pen a eu des financements de campagne, mais en termes d'action sur les réseaux sociaux, la question n'est pas tellement de savoir déjà si c'est convenu ou pas, mais c'est que c'est un fait. Les campagnes venant de Russie, par exemple, favorise majoritairement ce genre de groupe. Bien qu'on pourra en reparler, ce n'est pas leur seule action. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des actions, ils vont favoriser aussi d'autres types de groupes. Ils peuvent même, par exemple, des groupes de gauche, puisque un des buts, c'est de semer la division.
Vous montrez dans votre livre que les réseaux sociaux piègent les utilisateurs de trois façons. Je vous cite, première façon, le renfoncement, deuxième façon, le phénomène de la contagion algorithmique et la bulle de filtre. Et tout ça a des conséquences que vous analysez, le phénomène que vous appelez de biais de confirmation et le phénomène de biais de négativité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ?
Oui, alors donc là on revient vraiment sur en gros la mécanique elle-même des réseaux sociaux, c'est-à-dire la manière dont l'architecture numérique et les choix qui sont faits par les plateformes vont modifier la formation des groupes sociaux en ligne. Et donc effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc en gros, c'est quoi un réseau social ? C'est vous êtes sur une interface numérique et vous communiquez avec d'autres humains via des canaux informatiques. Donc de l'image, de la vidéo, etc. La question, c'est comment sont construits ces canaux et qu'est-ce que vous pouvez faire au sein de ces canaux. Donc souvent, les personnes qui... Enfin, je pense que beaucoup de gens, si on vous demande, par exemple, quelle est la technologie qui ressemble le plus à Twitter ou Facebook d'avant les réseaux sociaux, ils vont dire, par exemple, le SMS. Je peux envoyer un message à plusieurs personnes et ils le reçoivent, etc. Bon. Même si après, c'est très différent, c'est un peu l'idée qu'on pourrait plaquer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très différent. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un réseau social, effectivement, vous pouvez envoyer des messages à d'autres personnes qui le reçoivent. Sauf que le réseau social, donc la, quand je dis le réseau social, c'est-à-dire l'interface, hein, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc., ce ne sont pas des interfaces passives qui vous offrent juste des canaux pour envoyer des messages. Hein. Ce n'est pas le mail, ce n'est pas la poste, ce n'est pas le SMS. Ce sont des interfaces actives qui vont organiser la circulation de l'information. Alors, la première chose qu'elles vont faire, c'est que elles vont vous essayer de vous pousser à avoir plein d'amis en vous suggérant des nouvelles personnes à qui vous contacter en fonction de ce qu'elles pensent être le plus proche de vous. Et là, il y a déjà un premier critère qui est qu'ils vont essayer de vous apparier eux-mêmes. Et donc, il y a un premier niveau qui vont vous suggérer tous les gens qui ont les mails dans votre carnet d'adresse, parce qu'ils arrivent à aspirer les carnets d'adresse. Bon, ça, c'est une chose. Mais par ailleurs, ils vont dire, bon, machin s'intéresse à un problème des retraites, bidule aussi, donc on va suggérer qu'ils se mettent ensemble. Donc là, déjà, ils ont une première action qui est, ils vont vous suggérer des nouveaux amis auxquels vous n'aurez pas pensé. Et donc, si vous réfléchissez, si vous dites que, je ne sais pas, il n'y a pas de statistiques puisqu'elles sont un peu opaques, elles sont cachées, mais si vous pensez que même 20% ou 30% des nouveaux connexions en ligne se font via ce média-là, ça veut dire qu'en gros, le réseau social décide de 20 à 30% des connexions entre les humains et de leur futur, c'est-à-dire leurs amitiés, de comment ça va se développer, etc., d'une certaine manière. Mais après, ils font autre chose, c'est-à-dire que, comme ils vous poussent à avoir plein d'amis, assez vite, en fait, ce que produit votre environnement social dans une journée, donc en moyenne, par exemple, sur Facebook, les gens ont 338 amis, enfin, bon, en gros, plus de 300, ça dépend, ça évolue, évidemment. Donc, vous avez plus de 300 connexions sur un média comme Facebook. Vous ne pouvez pas lire ce que produit les 300 personnes chaque jour, c'est beaucoup trop. Donc, ce que va faire le réseau, c'est, il va dire, bah, en fait, vous avez besoin d'une béquille, on va vous proposer les messages les plus importants pour vous. Alors, ça, c'est un peu hypocrite, parce qu'en fait, pour vous, ça veut dire que, en fait, c'est plutôt pour eux. C'est-à-dire que la notion de qu'est-ce qui est bien pour vous, ils s'en foutent totalement. Ils vont prendre un critère qui va être le même pour tous les utilisateurs, évidemment. Et ils vont essayer de proposer donc ce type de contenu. Donc, ce qui veut dire que parmi vos 338 connaissances et les peut-être 3000 messages qu'ils vont produire dans la journée, les plateformes ont créé un espace qui, en général, s'appelle la timeline. Donc, ça, on les a sur toutes les plateformes maintenant, où on va vous montrer les messages qui, quand vous vous connectez, sont, du point de vue de la plateforme, les plus pertinents pour vous. Et donc, vous allez en lire peut-être 10%. Ce qui veut dire qu'en fait, parmi les 3000 messages qui sont produits par votre environnement social, vous laissez un algorithme vous faire lire les 10% que lui a choisi. Et ces 10% peuvent être très biaisés. Ils peuvent vous montrer que des choses qui parlent de quelque chose. Ils ne vous montrent pas forcément les 10% des gens auxquels vous le tenez le plus. Et voilà, etc. Donc là, y a un phénomène de recommandation où on va donc vous recommander du contenu. Donc là, il peut y avoir déjà aussi un enfermement au sens où ce qui va vous être recommandé va dépendre de ce que la plateforme pense qu'il est intéressant. Et donc là, il y a plusieurs critères.
C'est l'expérience de Matt Hogan que vous avez décrite dans votre travail.
Exactement. Donc, par exemple, pour, effectivement, pour se rendre compte un petit peu de la manière dont on vous propose ce genre de choses, il y a un journaliste qui s'appelle Matt Hogan, qui est journaliste à Wired, qui a fait une expérience. Il a dit, si Facebook, par exemple, sait, parce qu'ils s'en vantent, ils disent, maintenant, on va vous proposer les contenus pertinents. S'il sait si bien savoir qu'est-ce qui est pertinent pour moi, ok, je vais cliquer tout ce que je vais liker tout ce qu'il me dit qui est pertinent. Et donc il a fait ça, il a commencé un matin et en fait il n'a pas tenu deux jours parce qu'en fait à force de liker, l'algorithme lui apprend ce que vous likez et va essayer de vous en ressortir encore plus parce qu'en fait le but des plateformes au final, il faut bien retomber sur le modèle économique qu'il y a derrière. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc en fait, ce qu'ils cherchent à vous vendre ces plateformes, c'est des clics sur des publicités. Enfin, ce que cherchent à vendre ces plateformes en vous donnant accès à leur contenu, c'est des clics de publicité aux publicitaires. Et donc, pour que vous cliquiez sur beaucoup de publicités, qu'est-ce qu'il faut? En fait, il faut que vous soyez actif sur la plateforme. Donc, il faut que vous ayez beaucoup d'engagement. Ce qu'ils appellent de l'engagement, c'est-à-dire que vous allez liker, vous allez commenter, vous allez repartager. Et donc, et c'est à partir de ces actions que la plateforme va apprendre le type de contenu auquel vous êtes le plus sensible pour, parmi les 3000 messages, vous choisir les 10% sur lesquels vous êtes les plus à même de cliquer.
Les algorithmes.
Et ça, c'est les algorithmes qui font le choix, c'est-à-dire qu'ils regardent ce que vous faites, et sur un historique de quelques jours, après ils vont dire, tel contenu, je vais lui montrer parmi tout ce possible, parce que je pense que c'est celui qui est le plus, qui va créer le plus d'engagement, ou qui risque de créer le plus d'engagement pour le contenu qui va venir après. Par exemple, hein, si je veux vous montrer une pub de chaussures, alors je vais commencer par vous montrer une vidéo de votre ami qui fait du jogging, ça va vous mettre dans l'esprit, et puis juste après, je vous montre une pub de chaussures. Donc là, vous êtes plus réceptif, et dire, bah, tiens, j'aimerais bien aller faire du jogging avec cette personne-là, voilà. Ils peuvent même arriver à trouver le moment, par exemple, où un adolescent se sent le moins valorisé, déprimé, etc., pour après pouvoir proposer des pubs à des moments clés de la personne.
C'est donc ce que vous appelez la contagion algorithmique.
Alors, la contagion algorithmique, ça vient après. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment au niveau individuel. Donc, d'accord, déjà, au niveau individuel, il y a une espèce d'enfermement dans un ensemble de contenus que la plateforme vous semble intéressant. Mais après, donc, effectivement, la plateforme, elle, en gros, derrière, elle va vous observer, cliquer, elle va choisir ce qui vous semble plus à même de cliquer. Mais elle va aussi observer la manière dont les gens qui sont autour de vous cliquent. Et donc, peut-être qu'il y a un contenu qui va provoquer beaucoup d'interactions de votre oncle Tom, et elle va dire, ah bah, si ce contenu provoque beaucoup d'interactions, comme David a cliqué beaucoup de contenu de Oncle Tom, je vais lui proposer ce contenu-là de Oncle Tom. Et donc, là, ce que j'appelle contagion algorithmique, c'est l'idée que quand après vous êtes observé au sein d'un réseau, parce qu'en fait, ces plateformes vous observent et observent tous vos proches, hein, donc toujours dans cette problématique de recommander du contenu, à un moment donné, elle va dire, tiens, Oncle Tom, par exemple, il parle énormément de tels sujets, par exemple, les dangers du vaccin, ou les gilets jaunes, ou la réforme des retraites, ou je ne sais pas quoi, l'ISF, etc. Et donc, je vais vous le recommander. Et ce que ça fait, c'est que vous, quand vous parlez à votre Oncle Tom, en général, vous avez des sujets de prédilection, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec lui politiquement, donc vous évitez ce genre de sujet parce que vous savez que c'est sensible. Par contre, vous allez parler du réchauffement climatique. Mais en fait, comme les algorithmes ne font pas ce genre de distinction, en termes de contexte d'interaction, ils ne vont pas dire, lui, il va parler avec machin sur le climat, mais par contre, il va éviter tel sujet. Donc, comme il va avoir Oncle Tom qui parle, par exemple, beaucoup de politique, il va vous envoyer aussi des messages politiques. Et donc là, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit au bout d'un moment, vous dites, bon, ça va, j'en ai marre, et vous coupez la relation. Soit, au contraire, vous commencez à être acquis à des idées sur lesquelles vous n'avez pas envie d'être exposé. Bon, typiquement, par exemple, les vaccins, vous pouvez être acquis à l'idée qu'il faut absolument se vacciner, ou au contraire, le vaccin est dangereux, alors que vous aviez des positions différentes, simplement parce qu'on vous expose de manière répétée, et que c'est un ami qui vous y expose. Alors que, si vous l'aviez rencontré dans la vraie vie, on va dire, vous n'auriez pas parlé de ça, parce que vous l'auriez dit, bon. Mais en fait, là, d'une certaine manière, il vous force à voir. Donc là, vous pouvez avoir une sorte de contagion de sujets qui va provoquer une espèce d'alignement des idées, des idéologies entre personnes. Et donc, si on le regarde par au-dessus, au sens où on regarde l'ensemble des personnes qui interagissent entre elles, les personnes vont créer des liens, couper des liens. Donc, elles vont créer des liens suite à des suggestions de la plateforme. Elles vont couper des liens parce qu'elles en ont marre de voir machin qui commence à parler trop de ça, alors qu'en fait, dans la vraie vie, ils n'auraient jamais parlé de ça. Et puis, donc ça va reconfigurer les réseaux. Et donc, un des risques que je souligne dans Toxic Data, c'est qu'on peut arriver à des situations comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est la dégradation la plus avancée de la société sous le coup du numérique. Aux États-Unis, quand vous êtes républicain, vous êtes quasiment forcément climato-sceptique, vous êtes quasiment forcément anti-vax, et quand vous êtes démocrate, vous êtes quasiment forcément pro-climat, enfin pro-GIEC, en gros, respectueux du GIEC, quasiment forcément respectueux du masque. Quand je dis quasiment, c'est-à-dire les probabilités, en gros, d'être l'un ou l'autre sont très très différentes.
C'est-à-dire que ça entraîne une polarisation de plus en plus grande.
Et donc vous avez une fracture qui se fait sur plusieurs dimensions à la fois. Ce qui fait qu'à la fin, vous avez des populations qui deviennent en fait quasiment incompatibles, puisqu'elles ne peuvent ni parler de politique, ni parler de climat, ni parler de etc. Et qui rentrent dans des esprits de confrontation. Et c'est ce qu'on a vu au Capitole. Hein, vous aviez donc partie de la population qui était convaincue qu'il fallait même aller jusqu'à assassiner le vice-président. C'est ce qui s'est passé en Brésil avec Bolsonaro, où il y a aussi les prises des institutions. Il faut souligner que même un an après la prise du Capitole, qui a été vraiment un séisme, ça a été quand même un moment où il y aurait pu y avoir des morts.
Et bien, il y a eu d'ailleurs.
Il y a eu des morts, mais il y aurait pu y avoir beaucoup plus de morts. Et même il y a eu des morts un peu par accident, mais il y aurait pu y avoir des morts volontaires par assassinat. Donc même un an après cette prise du Capitole, vous avez quasiment la moitié des Américains qui pensait qu'il fallait faire deux États-Unis, c'est-à-dire, oui, en gros, une fédération des États-Unis démocrate séparée d'une fédération des États-Unis républicaine, parce qu'ils se sentaient incompatibles. Mmh. Et il y a des études que je détaille aussi dans Toxic Data qui montrent que lors de ces campagnes de 2016 et après des midterms, etc., les personnes qui avaient beaucoup échangé sur le thème politique en ligne, après, se réfrénaient à échanger de politique hors ligne, parce qu'ils avaient eu la perception, au final, qu'ils avaient moins à partager avec leurs opposants politiques, que forcément ça allait tourner au vinaigre, etc. Et donc, ça diminue les interactions politiques
dans
la vraie vie. Donc, il y a tous ces effets-là en cascade, on ne peut pas tous les détailler, évidemment, mais que je décris, qui font que, profondément, les réseaux sociaux tels qu'ils sont conçus actuellement déstructurent complètement le tissu social à grande échelle, dans une manière qu'on essaie justement de mesurer avec ces outils CNRS.
Et aussi, ce dont vous parlez, la création d'une réalité alternative. Un décalage de plus en plus grand.
C'est-à-dire qu'à partir du moment, en fait, où vous faites des opinions en échangeant avec des gens, que la plupart des échanges commencent à se faire en ligne, et qu'en ligne, les personnes avec qui vous êtes connectés, en fait, sont dans ce qu'on appelle des chambres d'écho, c'est-à-dire, pour certains, hein, pas pour toutes, mais ils se forment des chambres d'écho, c'est-à-dire des ensembles de comptes qui sont très connectés ensemble et moins à l'extérieur, qui, en plus, par ces phénomènes de renforcement algorithmique et de bulles de filtre, comme on les appelle, vont être alimentés à peu près du même type de d'informations. Hein. Faut savoir que, par exemple, juste pour donner un ordre d'idée, vers l'année, je crois, 2021, ils avaient fait une stat sur Facebook, 80% des messages qui portaient de la désinformation Covid avaient été vus par seulement 4% de la population. C'est-à-dire, en gros, vous prenez toutes les informations pour Covid, prenez 80% et vous les orientez sur seulement 4% de la population. Vous imaginez que ces 4%, ils vont être saturés de ce genre d'informations et, en fait, leur réalité va être remplacée par cette désinformation. Et du coup, après, effectivement, ça peut créer des groupes de gens qui vivent dans des réalités alternatives, au sens où ce qu'ils voient n'est pas les informations qui circulent n'est pas alignées avec ce qui est accepté ou débattu dans l'ensemble de la société. Mais en plus, dès qu'ils se tournent vers des personnes avec qui ils sont liés sur les réseaux, ils voient qu'en fait, ces personnes-là croient et disent la même chose. Donc, ils ont l'impression que le monde est comme ça.
On va faire une pause musicale. Frédéric, notre but.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi, et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Prends garde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer moi.
Prends garde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter moi.
Prends garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme.
achètes. Un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras. On s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats.
Radio Libertaire 89.4, le grand soir du mardi, accueille aujourd'hui David Chavalarias pour nous parler de son ouvrage « Toxic Data, comment les réseaux sociaux manipulent nos opinions », sorti en mars 2002.
Chez Flammarion.
2022, pardon.
J'aurais été très précurseur.
Vous venez d'entendre Stromae, Carmen. Je vais vous demander de nous expliquer ce que c'est que ce fameux biais de négativité.
Oui, donc tout à l'heure on a raconté un petit peu comment les réseaux sociaux commençaient à structurer les interactions sociales et le fait que ces réseaux étaient quelque chose qui des médias qui étaient actifs, c'est-à-dire qui choisissaient les contenus qui vous étaient montrés. Et en fait, une des manières dont ils choisissent, une des principales métriques qui est connue, parce qu'en général, elles ne sont pas dévoilées, donc on peut juste essayer de les deviner, mais parfois elles sont un peu annoncées, c'est l'engagement. C'est-à-dire le fait que, parce que vous avez cliqué sur des contenus, parce que vous avez commenté des contenus, parce que vos amis ont commenté des contenus, ces contenus vont être plus recommandés à d'autres ou à vous-même. Alors, là intervient quelque chose que je décris dans le livre avec un point de vue de psychologie, de sciences cognitives, c'est que qu'est-ce que ça veut dire que vous cliquez sur des contenus qui vous intéressent? Quels sont les contenus qui vont attirer le plus votre attention? Et là, il y a plusieurs études en psychologie qui nous donnent des indications sur quels sont les potentiels biais, c'est-à-dire déviations par rapport à votre vrai intérêt, enfin d'un intérêt véritable, qui vont faire que vous allez cliquer plus sur un contenu ou sur un autre. Et donc, j'en détaille quelques-uns, mais pour en mentionner qu'un, il y a un biais qui s'appelle le biais de négativité, qui dit que, toute chose égale par ailleurs, quand vous avez plusieurs informations qui vous sont présentées, vous allez être attiré en priorité et chercher à interagir avec celle qui comporte une dose de négativité, donc de danger pour vous, tout simplement parce que, par exemple, si je vous dis le vaccin est efficace à 90% et à côté un autre message, le vaccin vous rend stérile et qu'il faut cliquer pour en savoir plus, bah, en fait, vous risquez d'être vacciné, vous voulez quand même savoir pourquoi ça risquait de rendre stérile. Donc vous allez cliquer sur quelque chose qui va exprimer un peu de danger. Le problème, c'est que donc, quand vous faites ça, vous êtes observé. Donc, la psychologie vous dit, toute chose égale par ailleurs, vous avez plus de chances de cliquer sur des contenus qui comportent une dose de négativité, de danger, d'anxiété, que des contenus neutres ou positifs. Bon, ça ne veut pas dire que vous ne cliquez jamais sur des contenus neutres ou positifs, mais en moyenne, il y a un biais. Maintenant, vous le faites dans un environnement numérique qui apprend. L'environnement numérique, lui, cherche à optimiser vos interactions. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va détecter que les contenus négatifs, anxiogènes, etc., sont plus relayés que les autres. Et du coup, il va vous en servir encore plus. Ce qui fait que ces environnements, a priori, vont amplifier le taux d'anxiété des messages qui vous sont présentés, puisqu'en fait, il ne vous présente qu'une petite partie des messages parmi tout ce qui est possible, hein, parce qu'il a détecté que c'est dans les contextes anxiogènes que vous êtes le plus réactif, d'ailleurs le plus accro. Hein. On sait que dans les moments où il y a par exemple une guerre, etc., les gens achètent beaucoup des journaux, etc. Donc en fait, il y a une espèce de création artificielle d'anxiété ou de surplus d'anxiété dans les environnements des réseaux sociaux qui sont là en fait pour vous rendre accro au réseau, pour vous amener à cliquer plus. Donc ça, c'est une interaction directe entre un biais de négativité que nous avons tous, à plus ou moins grande dose, mais on a tous, et un objectif économique des plateformes qui est on veut vous faire cliquer plus. Elles n'ont pas d'objectif de vous mettre dans des environnements anxiogènes, juste qu'elles cherchent à vous faire
à cliquer
plus
pour
et
la publicité.
Exactement. Et donc, ça, conjugué avec un biais de négativité, ça l'amplifie. Et ce qui veut dire que si vous êtes dans un environnement, par exemple, de guerre en Ukraine, ça va devenir encore plus anxiogène sur les réseaux sociaux, si, etc., etc.
Pour illustrer justement cette question, vous développez le cas Zemmour, justement. Et vous expliquez que Zemmour, qui a parfaitement compris justement cette logique du biais de négativité, a développé un discours qui était anxiogène.
Alors, il y a beaucoup de partis politiques qui développent des discours anxiogènes, c'est souvent les populistes, hein, jouent beaucoup sur cette corde-là, pour capter l'attention. Maintenant, quand ces partis populistes utilisent les médias sociaux, en fait, ils ont d'une certaine manière un avantage par rapport aux autres, puisque leur discours, par définition, est du type de ceux qui vont être amplifiés par les médias sociaux. Et ça, à tel point que ça a été détecté, par exemple, par des journalistes qui, à un moment donné, en 2018, Facebook a décidé de changer son algorithme. Avant 2018, il cherchait à optimiser le temps passé. Après 2018, il cherchait à optimiser donc l'engagement. Et il y a des rédactions journalistes qui se sont allées se plaindre à Facebook. Ça, on l'a vu parce qu'il y a eu des fuites de Facebook et donc on a eu des documents internes qui montraient ça. Ça, c'est Frances Haugen qui a révélé
oui,
ça.
C'est lanceuse d'alerte.
Voilà, lanceuse d'alerte qui a montré que les rédactions étaient venues se plaindre à Facebook en disant « Depuis que vous avez changé votre algorithme, nous sommes obligés de changer la proportion des messages ou des unes un peu alarmistes de 50-50 à 80-20 parce que sinon, on devient invisible. » Et moi, je l'ai aussi entendu dire de politiques qui me disent bah, « Si on n'est pas un peu clash, polémique, etc., on est invisible. » Et donc, ça explique en partie pourquoi, et ça, c'est ce qu'on observe aussi, hein, les groupes politiques extrêmes au discours vraiment très, très anxiogène sont plus relayés. Après, il y a d'autres raisons qui sont que, par exemple, dans le cas Zemmour, ils avaient organisé une campagne numérique qui aussi essayait de détourner ou de profiter des failles des systèmes de recommandation. Parce que les systèmes de recommandation, non seulement ils regardent comme ça les nombres de clics, etc., mais ils regardent des volumes. Et donc, c'est assez facile, en fait, par exemple, de tromper le système de recommandation de Twitter pour lui faire croire qu'il y a une tendance vers Lola, par exemple. le scandale qui était arrivé, le drame qui était passé la dernière fois, il y a quelques semaines. Si, par exemple, des personnes au même moment vont envoyer des messages qui portent ça. Et tout à l'heure, on parlait de Black M. Donc Black M, un rappeur qui devait chanter à une cérémonie de Verdun. Et il y a eu, trois jours avant, tout un foin sur Twitter, avec donc le hashtag Black M, etc., ou Black M sans Verdun, sans Black M, ou un truc comme ça, qui est passé dans les tendances. Donc donc ça a commencé à faire du bruit. Et en fait, c'est passé dans les tendances juste parce que un petit groupuscule de gens d'extrême droite se sont synchronisés pour envoyer plein de messages dans ce sens-là. Twitter a dit, bah tiens, là, il y a une tendance. Je commence à l'afficher de manière globale. Et à partir du moment où ça s'affiche de manière globale, les journalistes s'y intéressent, etc. Et les équipes Zemmour ont très bien compris ça. Et donc, elles créent des campagnes d'influence, en gros, du système de recommandation de Twitter tous les jours. Alors, ce n'était pas les seuls, hein, mais quand on a fait l'analyse pour savoir qui faisait ce genre de campagne, en gros, les équipes Zemmour en faisaient 100 fois plus. Et donc, du coup, ils explosaient, si vous voulez, les scores de visibilité sur ce genre de réseau. Et cette stratégie est très importante parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que sur les réseaux sociaux, la structure des interactions se forme un peu sous forme de sous-communautés. Et donc, par exemple, quand vous sortez une fausse information ou quelque chose qui est spécifique à votre culture locale, ça va tourner beaucoup dans la culture locale, mais ça ne va pas diffuser. Donc, les gens qui sont au PS, leur message ne va pas diffuser à l'extrême droite, peut-être un peu au PC ou chez Mélenchon, etc. Enfin, on l'observe, ce genre de choses. Pareil à droite, pareil au centre. Par contre, si vous arrivez à ce que votre message passe dans les tendances d'un réseau social, qu'il soit Twitter, TikTok, etc., à ce moment-là, c'est le réseau social qui va recommander à l'ensemble de ses utilisateurs des contenus. Et là, d'une certaine manière, il vous fait de la pub gratuite. Donc, et ce qu'on a observé, donc effectivement, c'est que les équipes de Zemmour étaient les plus agiles à faire ça. Et d'ailleurs, alors même que les règles d'utilisation de Twitter disent que c'est interdit. C'est-à-dire que Twitter sait que, bon, voilà, il ne faut pas faire de ces choses-là. Ça s'appelle notamment de l'astroturfing, c'est-à-dire créer l'illusion qu'il y a l'adhésion à une cause, alors qu'en fait, c'est le groupe qui adhère à cette cause est beaucoup plus petit qu'il n'y paraît. Et donc, ça peut se faire en dédoublant des comptes, donc en créant par exemple des faux comptes, des robots, etc. Ce qu'a probablement fait aussi l'équipe Zemmour, mais ça, on n'a pas approuvé, en tout cas on n'a pas fait l'étude nous-mêmes là-dessus, en se synchronisant et en disant cette heure-là, on va tous poster cette chose-là, le même texte, etc., pour que ça ressorte. Alors, cette technique n'est pas interdite, elle est interdite par les règles de Twitter. Mais disons que si vous le faites à grande échelle, ça devient un peu immoral.
Oui, c'est autour de la notion de grand remplacement, de grand remplacement, par exemple, que Zemmour a beaucoup tweeté pour générer de la peur, de l'angoisse.
Tout à fait. Alors là, il y a eu plein de sujets qui étaient. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le cas de Zemmour, il y a eu plusieurs phénomènes. C'est-à-dire que d'une part, ils étaient très agiles sur les médias numériques. D'autre part, ils avaient le support de chaînes comme CNews qui permettait d'avoir une audience nationale. Et ils ont utilisé ça de manière très intelligente. C'est-à-dire qu'en fait, pour être bien diffusé sur les réseaux sociaux, quelque chose qui est intéressant, c'est de pouvoir diffuser un élément qui vient, en gros, du monde réel, entre guillemets, par exemple un élément vidéo, et vous dites « Regardez, c'est scandaleux », etc., et ça diffuse. Et donc, il y a eu un espèce de couplage entre CNews et le réseau social. C'est-à-dire qu'ils organisaient des émissions sur CNews avec l'aide de CNews, enfin tout simplement. Par exemple, Zemmour était le premier invité de, je sais pas, dans la rue, ou je sais pas comment ça s'appelait, je me souviens plus, enfin bref, c'est quelque chose où les invités allaient dans la rue et rencontraient des gens, et le narratif c'était, on prend des candidats, on les fait rencontrer des vrais Français, et on regarde leurs réactions spontanées.
Il y avait l'histoire de cette femme voilée.
Voilà, exactement. Et donc, à cette occasion, c'était des émissions qui étaient taillées pour en fait mettre en avant Éric Zemmour, même si de temps en temps il y avait quelques autres épisodes avec d'autres personnes. Et première émission avec Zemmour sur cette émission-là. Donc, ils ont amené Zemmour à Drancy, ce qui n'est pas non plus anodin, même si c'est sa ville où il a grandi. Et ils ont fait rencontrer pas mal de personnages, le boulanger, etc. Donc, le boucher, dont à un moment une personne voilée avec qui il a échangé sur le voile. Et en gros, en 30 secondes, elle lui a fait enlever le voile et elle sa cravate, etc. Toutes ces choses-là, ça a fait des micro-vidéos qui, après, ont été relayées immédiatement par les équipes Zemmour. C'est-à-dire qu'en gros, d'une certaine manière, elles étaient en embuscade sur les réseaux sociaux pour immédiatement relayer des bouts et montrer comment Zemmour était bon à lutter contre le voile, parce qu'en 30 secondes, il enlevait et faisait enlever le voile à une dame. Sauf que, en fait, il s'est avéré que toutes ces rencontres étaient complètement fausses, c'est-à-dire que notamment, par exemple, cette personne était une ancienne employée de Bolloré, n'habitait pas du tout à Drancy, c'était pas du tout une habitante de Drancy, la production l'avait fait venir en taxi de 40 km plus loin, spécialement pour l'émission, pour attendre Zemmour, pour parler du voile, etc. Et en fait, toutes les personnes qu'il avait rencontrées étaient de ce type-là. Donc il y avait un espèce de casting. Morandini, qui au début de l'émission disait « Vous allez rencontrer des vrais machins, des vraies personnes », eh bien en fait, tout ça, c'était bidon. Sauf que vous créez des événements bidons dans des contextes qui ont l'air un peu hors des réseaux sociaux, donc la télé, qui est un peu un truc que tout le monde admet comme
plus
légitime. Et puis, vous reprenez ces bouts de bidons et vous les faites circuler. Et si vous avez une campagne, une équipe numérique efficace, eh bien, vous prenez de l'avance sur les formations de l'opinion, parce que vous diffusez beaucoup de choses, de méconceptions très rapidement.
Peut-être une question. En fait, votre travail est extrêmement riche. On a parlé du cas Zemmour, on pourrait parler du Capitole, on pourrait parler de l'élection de Trump, on pourrait parler de beaucoup de choses. Vous montrez à quel point les réseaux sociaux influencent justement les élections. On pourrait aussi parler de Macron. Et de l'ingérence russe. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous parler un petit peu de l'IRA, pour qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit. Internet Research Agency. Bon.
Voilà. Donc là, c'est la partie du livre où je parle vraiment du contexte géopolitique et de l'usage des réseaux sociaux comme arme géopolitique. Donc il faut bien bien voir que donc les réseaux sociaux, une de leurs propriétés, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Donc c'est très facile pour quelqu'un qui est en Russie, en Chine ou aux États-Unis d'interagir avec des gens qui sont en France sans se déplacer. Ça, c'est quelque chose qui a été très vite compris de la part des États, notamment des dictatures, pour créer des campagnes d'influence à l'étranger. La Russie a une très longue historique et culture de la subversion à l'étranger, hein, donc, notamment par l'infiltration d'espions, y compris dans les plus hauts, les hautes sphères, hein, les services du MI6, MI5, etc. Contre-espionnage britannique. Ils ont une très grande culture de ça. Et quand ces réseaux sociaux sont arrivés, ils ont vu tout de suite, enfin, quand je dis ils, c'est donc plutôt Poutine, le KGB, enfin, pas les Russes en général, plutôt les dirigeants de l'époque et de maintenant. Donc ils y ont vu une opportunité pour agir sur les démocraties occidentales qui, par leur conception de la liberté d'expression, en fait, autorisent les gens à s'exprimer. Et donc ils ont créé des armées numériques. Donc il y a quelque chose qui s'appelle Internet Research Agency, dont on a les premières traces en 2013-2014, mais c'est quelque chose qui est un peu secret. Non, c'est un peu connu, mais ça c'était mettre vraiment un peu caché. Où là, c'est carrément quelque chose qui dépend du ministère, alors je sais pas quel, mais en gros, les affaires étrangères, ou, etc. Ou en tout cas du Kremlin directement, et qui emploie des centaines de personnes dont le but exclusif, c'est d'aller sur les différents réseaux sociaux, de prendre des fausses identités, hein, de se faire passer pour des Français, des Américains, etc. Et de diffuser des éléments de langage qui vont aller dans le sens du Kremlin. Et ces éléments de langage, ça va être on va aider tel ou tel groupe politique à déployer ses arguments, mais aussi et principalement, on va essayer d'affaiblir les démocraties en créant de la division. Donc là, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup dans le livre. C'est-à-dire que on peut évidemment, il y a beaucoup de choses à commenter sur les stratégies des uns et des autres au niveau d'un pays, les stratégies des groupes politiques pour utiliser et instrumentaliser ces réseaux sociaux. Mais le plus grave, à mon avis, c'est la manière en fait dont ils sont utilisés pour créer la division au sein d'un pays, parce que on peut avoir des points de vue divergents politiques au sein d'un pays. Ce qui est important, c'est d'arriver à garder un espace de débat démocratique et qu'on arrive plus ou moins à faire des élections, qu'on arrive à passer le pouvoir de manière à peu près correcte, etc., quand il y a des changements de bord politique. Le but de la Russie, et c'est un but affiché, il y a eu donc les Kremlin Papers qui sont sortis en l'été 2021. Le but de la Russie, c'est de détruire en fait le dialogue démocratique en renforçant les divisions entre les différents groupes, et donc ils vont favoriser non seulement des extrêmes et des groupes qui sont vraiment partisans, hein, non, ils vont aider, par exemple, certainement aidé François Fillon, qui lui, après, a eu un poste un poste en Russie, mais donc a mené sa campagne numérique, encore une fois, sans forcément accord, hein, c'est juste qu'ils vont favoriser certains candidats, mais ils vont aussi donc favoriser la division. Donc on sait, parce qu'il y a eu des enquêtes du Sénat américain, qu'aux États-Unis, dans la campagne de Trump, pour déstructurer un peu le tissu social américain et qu'une personnalité comme Trump puisse sortir comme potentiel recours et adhérer, qu'il a fallu donc exacerber les sentiments identitaires chez les Noirs, les Latinos, les LGBT, etc. Et qu'en fait, faire en sorte que tous ces groupes-là trouvent qu'ils aient moins en commun au niveau national que dans leur propre communauté. Et donc ça va par, notamment, créer des faux profils, hein, qui vont exagérer. Donc là, par exemple, il y a beaucoup de choses qui circulent, notamment sur les personnes trans aux États-Unis, avec des choses mais complètement caricaturales, et c'est très probable que une partie de ces choses très caricaturales n'existent tout simplement pas. C'est juste des fausses personnes qui jouent la caricature. C'est arrivé aussi en France avec des comptes féministes où des comptes en fait se réclamaient de un peu féministes à outrance, et en fait c'était des faux comptes, quelqu'un qui s'était amusé là, apparemment sans vraiment intention, de juste pour s'amuser, mais ça marche. Et donc le résultat de ça, c'est que ça permet aux antiféministes de dire bah regardez, c'est débile la manière dont ils agissent, est-ce que vous voulez vraiment que votre gosse fasse une chirurgie etc. Donc au final ça crée de l'inimité entre les groupes sociaux, Et ça crée des barrières où les gens disent...
Bah, là, et de la violence.
Et de la violence.
Et là, de la rupture du lien social, en fait.
Bien sûr. Et donc là, après, pour revenir aux États-Unis, là, c'est devenu très, très grave. C'est-à-dire que là, encore pas plus tard qu'hier, ils ont arrêté un ancien candidat pour des élections de gouverneur de Nouveau-Mexique, qui avait organisé, incité, en fait, ses partisans à venir tirer sur les maisons des démocrates, au fusil. Hein. Donc... ou même, on peut reparler aussi même en France, pendant l'épisode crise Covid, il y a des gens qui sont venus devant des maisons de députés pour caillasser la maison du député. Bon, on sort du débat démocratique, là. Donc, et ces comportements-là qui sont extrêmes, donc qui sortent vraiment de la question de l'échange, sont attisés par, notamment, l'IRA, qui a intérêt, en fait, à ce que les pays démocratiques s'intéressent plus à se battre entre eux et avec leurs querelles internes que se demander s'il faut soutenir l'Ukraine ou soutenir un autre pays.
Alors, bon, face à ce que vous décrivez est absolument terrifiant.
c'est vrai.
Alors, que, voilà, qu'opposer à ça ? Vous proposez dans le bouquin diverses... Oui, attitudes ou...
Justement, pour faire un bouquin un petit peu constructif, à la fin, il y a une conclusion assez importante avec 18 pistes différentes d'action. Donc, on ne peut pas toutes les décrire ici. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que déjà, il y a des pistes individuelles et des pistes collectives. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une responsabilité de chacun de prendre conscience et de mener plusieurs actions. On va pouvoir en détailler quelques-unes. Et aussi, une responsabilité collective, notamment... des collectifs humains, mais même des États, hein, de mettre en œuvre des choses qui permettent d'échapper à ces choses-là. Donc au niveau des pistes individuelles, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est prendre conscience du différent spectre, des différentes dimensions sur lesquelles agissent ces réseaux sociaux, hein, que ce soit les émotions personnelles, et donc du coup bien comprendre comment marche l'équilibre entre raisonnement rationnel et raisonnement émotif. Il y a des petits réflexes à avoir quand on relaie des choses, de se demander tout simplement si ce qu'on va relayer peut faire du mal à quelqu'un, ou ça correspond à ses valeurs. Rien que le fait de se faire se poser ça de manière introspective, ou même si c'est vrai ou ça n'a pas été manipulé, active des modes de raisonnement différents au niveau individuel. Il y a aussi tout simplement la question des choix des réseaux sociaux, hein, que l'on va choisir pour interagir. Donc, par exemple, en ce moment, on sait que Twitter a été repris par Elon Musk, qui ouvertement dit qu'il veut mener des guerres culturelles, qui ouvertement dit qu'il veut utiliser les informations sur Twitter à des fins politiques. Hein. Il a fait les Twitter Files, donc ça, c'était clairement...
Il est pro-Trump.
Il est pro-Trump, il est surtout complotiste, tendance alt-right. Donc, vous avez des réseaux qui sont plus sains que d'autres. Vous avez des conditions d'utilisation qui sont plus saines que d'autres. Vous avez au sein d'un même réseau, une fois que vous l'avez choisi, des manières d'agir. C'est-à-dire, typiquement, un réseau social va vous pousser à avoir plein d'amis, justement pour pouvoir faire ces choix dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire au sein de vos 300, 400, 1000 amis, ça va lui permettre de piocher en fait ce qui l'intéresse lui dans ce qui est produit. Donc en fait, il faut bien savoir comprendre que plus vous avez d'amis, de connexion, bah en fait, moins vous maîtrisez votre environnement social, puisque en fait, du coup, ça veut dire que vous ne choisissez pas. Si vous avez un seul ami, eh ben, le réseau n'aura pas d'autre choix que de vous recommander ce que produit cet ami. Si vous en avez 10, bah, ça va être à peu près les 10. Si vous en avez 100, bah, vous ne pouvez pas contrôler qui va y choisir. Donc voilà, il y a plein de petits réflexes à avoir en fait, au niveau individuel. Et après, oui ?
Oui, mais vous, dans votre bouquin, vous ne proposez pas une solution qui, personnellement, me paraît évidente, à savoir de ne pas être sur les réseaux sociaux du tout.
Si, si. Alors, en tout cas, ce que je dis, c'est que c'est bien de déconnecter et de prendre de la distance avec ce genre de technologie. On peut évidemment sortir des réseaux sociaux. Pour certaines personnes, ça convient très bien. Après... Personnellement, je pense que les réseaux sociaux peuvent aussi être très utiles. Ça peut être vraiment intéressant. Il faut bien utiliser. C'est formidable. Vous êtes quand même connecté à des experts mondiaux. Si vous savez bien choisir en fait, les gens à qui vous connectez, ça vous permet de rester en relation avec votre famille, même si elle est très loin, d'être connecté avec des experts mondiaux sur les thématiques qui vous passionnent, même s'ils sont par ailleurs inaccessibles. Donc, il y a quand même des avantages aux réseaux sociaux, mais il faut savoir les utiliser. Après, c'est sûr que si on est sur les réseaux sociaux 2, 3, 4 heures par jour, on sait que, par exemple, aux États-Unis, le temps d'utilisation des médias numériques, hein, donc réseaux sociaux, plus journaux en ligne, etc., c'est plus de 3 heures par jour, ce qui est énorme. Hein. Donc, savoir les utiliser de manière raisonnable. Hein, c'est-à-dire que 3 heures par jour, c'est 3 heures que vous ne passez pas avec d'autres gens, en vrai. Bon, mais après, donc, il y a aussi toute une série de mesures collectives qu'on peut prendre. Et là, il y a vraiment plein de questions. C'est-à-dire que ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que Internet, c'est les années 90, donc ça veut dire en gros 20, moins de 30 ans. Les réseaux sociaux, c'est le début, c'est 2004, Facebook, mais vraiment, quand ça s'est vraiment développé, c'est plutôt 2010, donc en gros, une dizaine d'années. 10 ans ou 30 ans, c'est rien à l'échelle de l'évolution d'une société, c'est rien à l'échelle de l'évolution de l'appareil juridique de ces sociétés, c'est rien à l'échelle de l'évolution des pratiques des gens. Et donc, on est vraiment dans l'enfance de l'utilisation de ces technologies numériques. Et donc, il y a des questions de régulation. Donc là, l'Europe est en train de se pencher dessus avec ce qu'ils appellent le Digital Market Act et Digital Service Act, hein, qui essaie de contraindre de certaine manière ces réseaux, mais c'est pas évident, parce que comme ils sont des multinationales dans différents pays, etc., c'est très difficile. Donc il y a la question de régulation, il y a des questions aussi de juridique, tout simplement. Par exemple, est-ce que c'est automatique que si vous collectez des données de 10 millions d'utilisateurs de manière individuelle, après vous avez le droit d'utiliser ça en masse pour faire des nouveaux produits ? C'est pas du tout évident. C'est comme si vous achetez des terrains, c'est pas évident que vous avez le droit de forer aussi profond que vous le voulez, ou que l'espace aérien au-dessus vous appartient. Donc, en droit, il y a toujours des limites, en fait, à la propriété, d'une certaine manière, surtout quand cette propriété commence à s'étendre sur des espaces assez importants. Et donc, pour le moment, on n'a pas de limite à la propriété des données qui sont données gratuitement par les utilisateurs aux réseaux sociaux. Mais on pourrait très bien en introduire. Donc moi, c'est ce que je préconise notamment. Je pense que les traitements à trop large échelle à des fins commerciales ou du ciblage publicitaire avec une granularité trop fine doivent être tout simplement interdits. Les masses de données collectées, moissonnées par les réseaux sociaux doivent être utilisées pour faire des services publics et des données publiques et pas pour faire de la publicité. Donc là, c'est des questions de législation. Et après, il y a aussi des questions d'organisation sociale. C'est-à-dire que ce que je décris dans le livre, ce sera un peu plus compliqué de dire pourquoi, mais c'est que, par exemple, les institutions telles que nos systèmes de vote sont très, très vulnérables, en fait, à ces technologies numériques, parce qu'en fait, elles ont des failles intrinsèques. Par exemple, le vote utile, c'est une vraie faille. J'introduis un candidat qui n'a aucune chance, et bien je change l'ordre des candidats élus. Mais, en fait, au-delà de ça, il y a plusieurs failles comme ça qui peuvent être vraiment très exploitées très profondément par ces manipulations sur les réseaux, et qui rendent nos systèmes de vote instables. Et donc, il faudrait changer tout simplement la manière dont nous élisons nos représentants. Je propose notamment de prendre...
Mais vous êtes à Radio Libertaire, vous pouvez simplement les éliminer. Hein.
Alors, les éliminer, ça c'est chacun son parti pris. En tout cas, si on veut commencer par une transition...
Les éliminer, je veux dire, sans passer.
Je comprends, voilà. En tout cas, si on veut commencer par une transition smooth, on va dire, on va commencer par les élire de manière différente. Et notamment, donc, je parle du jugement majoritaire, qui est une manière de voter qui est assez révolutionnaire et qui permet notamment d'éviter à la fois les failles dont je parlais et qui est la plus résistante aux manipulations d'opinion. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement immune, mais qu'elle est la plus résistante. Donc il y a plein de pistes au niveau collectif, je n'ai pas pu toutes les aborder, mais il y a vraiment de quoi faire. Il faut juste se rendre compte qu'il y a une situation un peu d'urgence, parce que si on ne veut pas finir comme le Brésil, qui a le même système de vote que nous,
Est-ce que vous pensez très brièvement qu'il y a une volonté politique, enfin en France, en Europe, ou une conscience de ces problèmes ? Est-ce que les gens qui
disons que je pense que on a un problème d'éducation des leaders politiques qui en fait ne comprennent pas ce genre de choses. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles il y a des livres de vulgarisation et pour lesquels moi j'ai aussi investi dans ce genre d'exercice, c'est qu'il faut absolument que les gens prennent conscience de ce genre de choses. Je pense que jusqu'à récemment, au niveau politique, il y avait assez peu de prise de conscience de ces choses-là. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que nos leaders vont s'éduquer progressivement, ou que des leaders éduqués vont prendre le pouvoir.
Prendre le pouvoir.
Enfin, accéder au pouvoir, en tout cas. Accéder au pouvoir de manière démocratique, aussi démocratique que possible.
Oui, enfin, je...
Oui. Voilà, on voilà. est à Radio Libertaire, hein, franchement. Voilà. La question du pouvoir, là, ça serait plutôt tout à fait une posture. Non,
on pourrait faire une émission inverse. Sur.
Oui, alors, moi sur, je suis d'accord.
Après, les gouvernances décentralisées, mais là, ce n'était pas le but du bouquin.
Hein. Non. Voilà. En tout cas,
en tout cas merci. Oh, on... Toxic Data de David. Oh, ben alors là, je ne sais pas si je serais bien.
Chavalaria.
Voilà. Et on se retrouve dans un mois. Merci à Frédéric. Merci à Thérèse.
Oui, merci.
Et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.